Apocalypse 3, verset 7. Et l'ange de l'assemblée qui est à Philadelphie écrit: voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force. Et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent être juifs, et ils ne le sont pas, mais ils mentent. Voici, je les ferai venir et se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que moi je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve, qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nouveau nom. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées.
Nous n'avons pas tout à fait fini la considération de ce qui concerne l'assemblée de Sardes, et on y a toute liberté pour apporter encore quelques compléments à ce qui nous est dit de cette Église. Nous rappelons brièvement ce que nous avons vu tout à l'heure, c'est que nous sommes là à l'Église de Sardes, qui correspond à la période de la Réformation, ce qui a suivi ce puissant travail de l'Esprit de Dieu, au moment où les vérités concernant le salut par la foi ont été rappelées, et où les hommes de Dieu à qui nous devons la mise en évidence de ces vérités cachées si longtemps pendant le Moyen-Âge sont revenus à la surface. Le salut par la foi. La réaction donc contre les œuvres qui avaient été mises en évidence jusque-là. Tout le temps de Thyatire qui a duré bien longtemps, ces ténèbres dans lesquelles l'Église s'est trouvée. Nous sommes là donc à un moment où ces choses ont été remises en lumière. Hélas, le formalisme s'est emparé de cette Église. Elle a non de vivre, mais c'est la mort. Et le Seigneur, de son œil scrutateur, prend connaissance de toutes choses. Il est là, comme dans chaque assemblée, celui qui connaît. Il a les sept esprits de Dieu pour nous rappeler que de son côté rien n'est changé, toutes les ressources sont là, c'est simplement si nous n'en profitons pas, l'insuffisance est de notre côté, nous ne savons pas nous emparer de ce qui est à notre disposition. De son côté rien n'est changé. Et puis les sept étoiles, nous savons que ces sept étoiles, ce sont les anges des sept assemblées, dans le verset 20 du chapitre 1er. Et comme ça a été évoqué dans la prière, l'étoile responsable de briller, des luminaires, nous est dit dans Philippiens 2, nous avons à briller comme des luminaires, qu'une étoile est un objet céleste, qui appelle à tourner ses regards en haut. Et une étoile aussi, elle apporte des points de repère au monde. Elle doit être un guide pour le voyageur. Les étoiles qui sont là correspondent aux éléments responsables des assemblées. Elles ont à faire connaître le chemin et à rappeler aussi, par la position des étoiles, on peut connaître l'heure de la nuit, l'heure jour. La nuit qui est fort avancée, n'est-ce pas, la nuit de ce monde, et c'est ce que nous avons à rappeler dans ce monde. Et puis on a insisté tout à l'heure sur le souviens-toi comment tu as reçu comment, c'est l'exemple que nous avons reçu, n'est-ce pas, de ceux qui ont marché, qui nous ont transmis les vérités que nous, qui sont entre nos mains. Et il y a une manière de recevoir. On nous a rappelé aussi dans Luc 8 comment nous avons entendu, le comment qui insiste sur la manière dont on reçoit la parole, et pas seulement dans la tête, mais on se l'approprie, on la vit pour soi-même. Et on nous a rappelé aussi, comme ici tout est individuel, c'est toujours celui qui a des oreilles, c'est celui qui vaincra. Et nous avons à prendre chacun pour nous l'enseignement de ces chapitres. Ne les considérons pas simplement comme un intéressant développement historique de ce que l'Église est devenue au cours des siècles, mais nous avons à prendre chacun pour soi les avertissements qui nous sont donnés, même si ici nous avons affaire à Sardes et nous pouvons nous dire, eh bien, c'est un stade dépassé. En fait, c'est d'ailleurs pas un stade dépassé, puisque Sardes aussi va jusqu'à la fin. Cette forme de l'Église coexiste avec Thyatire, avec Philadelphie et avec Laodicée, et ces quatre formes que prend la chrétienté dans les derniers jours jusqu'au retour du Seigneur, alors que les trois premières ont eu leur fin historique. Nous sommes donc là dans ces jours de Sardes, et à Sardes il est rappelé que s'il ne veille pas, eh bien le Seigneur viendra comme un voleur. Comme on dit, un voleur qui est inattendu, indésirable, et qui vient dépouiller, alors que le croyant, il attend le Seigneur, il désire son retour, et il sera enrichi par sa venue. Et puis il y a alors quelques noms à Sardes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. On voit, il est question ici de la marche séparée du monde. Et pour ajouter ceci, c'est que le vêtement dans l'Antiquité, il y avait là, il était flottant, mais pour la marche ou pour le service, il était serré à la taille par une ceinture. Il y a donc une vertu morale qui doit nous préserver de la souillure pour ne pas salir ses vêtements. Il ne fallait pas les laisser traîner, on les rattachait donc autour de la taille, et ça nous rappelle que nous avons à, comme il nous est dit quelque part, à ceindre les reins de notre entendement, à nous mobiliser pour la marche chrétienne, pas nous laisser aller. Il y a un temps où, comme quelqu'un l'a dit, nous pourrons enfin laisser flotter nos vêtements, nous serons dans un lieu où il n'y aura plus aucune souillure à contracter. Et alors la récompense au vainqueur sera précisément d'être vêtu de vêtements blancs. Et puis, son nom ne sera pas effacé du livre de vie.
Cette église de Sardes présente un caractère qui est bien inquiétant. N'est-ce pas? On a insisté sur ce point-là. Est-ce que du côté du Seigneur, les ressources sont différentes? Est-ce qu'elles sont diminuées? Bien sûr que non. Nous serions surpris du contraire. Et effectivement, nous pouvons remarquer qu'il se présente là, c'est un point que l'on peut remarquer, au verset premier de ce chapitre, comme celui qui a les étoiles, c'est-à-dire dans la même situation qu'il se présentait à l'église d'Éphèse au début. Donc, il se présente dans la même position. Il est aussi attentif, aussi vigilant sur son église qu'au début, au moment de la fraîcheur, au moment du début du témoignage, au moment du début de l'église. Ceci est bien encourageant. Et deuxième point, nous remarquons dans cette église de Sardes aussi deux points importants. L'esprit est mis en avant dans les ressources que le Seigneur tient en sa main. Verset premier, celui qui a les sept esprits de Dieu, esprit dans sa plénitude, ce sont les sept esprits de Dieu. Allusion probable à Ésaïe 11. Les sept esprits de Dieu, l'esprit est là, l'esprit de Dieu dans sa plénitude. Deuxièmement, la parole est là. Et nous savons que Sardes, il y a eu dans l'église de Sardes, un retour et une fierté de disposer de la parole de Dieu, qu'on a traduit, qu'on a diffusé dans le monde entier. Bon, ceci est donc reconnu à cette église. Cela nous renvoie, bien sûr, à ce qui se passait du temps d'Agée, à un renouveau qui s'est passé du temps d'Agée. Je lis simplement ce verset 5 du chapitre 2 du prophète Agée. « La parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. » Voilà donc ces deux grandes ressources. Le Seigneur est toujours le même. Le Seigneur est dans la même position, si l'on peut dire à des nuances près, que celle qu'il avait au début de l'Église, au début de la vie de l'Église. Et deuxièmement, les deux grandes ressources que sont l'Esprit et la Parole sont là. La difficulté, le problème, c'est que cette Église de Sardes n'a pas donné, n'a pas laissé à l'Esprit l'autorité dans sa vie collective, comme aussi dans la vie individuelle des saints, mais surtout dans la vie collective. Un clergé a été mis en place, certes, dépouillé d'une partie des excès du clergé de l'Église multitude, mais un clergé a été mis en place, qui décidait des sujets à aborder, de la façon de conduire l'action dans l'Église, ou du moins dans ce qui prétendait être l'Église. N'est-ce pas? Dans les rassemblements, en tout cas. Alors, ceci est important. Ceci est important, et c'est un point sur lequel nous devons être en alerte. Veillons, dans notre vie individuelle, à ne pas attrister ou contrister l'esprit par un manque de jugement de nous-mêmes, en laissant l'esprit en charge de rectifier ce que nous n'avons pas voulu rectifier quand le Seigneur nous demandait de le faire. Si l'esprit est occupé à rectifier nos voies ou agir sur notre conscience, il ne sera pas disponible, si je peux employer cette expression, pour nous conduire dans le chemin. Donc veillons, et nous insistons sur tous, jeunes ou moins jeunes, sur ce point important. Veillons à juger nos voies, à examiner nos voies jour après jour, afin que l'esprit ne soit pas contristé. Dans la vie collective, il en va de même. L'esprit peut être éteint. Parce que, par exemple, on ne se remet pas suffisamment à son action. Parce que, par exemple, et nous devons reconnaître en baissant la tête que, quelquefois, nous sommes bien en risque de le faire, en laissant quelquefois l'action, en quelque sorte, à la responsabilité de quelques-uns seulement dans une assemblée, instituant par là, sans le vouloir, une sorte de clergé, pourrions-nous dire. Veillons au risque que cela représente. Veillons au risque que cela représente, car ce formalisme-là nous guette aussi. Le Seigneur veille sur cela, mais nous ne devons jamais oublier le risque que cela peut représenter. Et rien n'est plus mauvais pour chacun de ceux qui sont dans cette salle, quand ils se rendent au lieu où le Seigneur a promis sa présence, d'y venir en assistant, d'y venir sans se sentir concerné, en simplement assistant, jouissant de ce que le Seigneur peut avoir donné, mais sans eux-mêmes être conscients qu'ils ont quelque chose à apporter, ne serait-ce que par l'exercice qu'ils ont devant le Seigneur, par la prière. Si je viens, n'est-ce pas, dans ce lieu, sans avoir cet exercice, pour que le Seigneur donne bien ce qu'il a à donner à celui qui sera son instrument, si je viens là de manière un peu passive, je suis en risque d'être une pierre d'achoppement pour ceux que le Seigneur a pu qualifier. Nous avons donc à veiller à cela, et cela concerne chacun, qu'il ait reçu un don ministère ou qu'il ne l'ait pas reçu. Le deuxième point, c'est la parole. Garder, n'est-ce pas, garder la parole, est une chose bien sûr importante, de la conserver, de veiller scrupuleusement à son orthodoxie, à l'interprétation que l'on peut faire de tel ou tel passage. Et nous savons combien ce point est particulièrement important dans les jours que nous vivons, où l'on se met à remettre en cause des vérités pourtant fondamentalement établies et avec tout le danger que cela peut comporter. Le fait de contester ou de discuter la parole la rend contestable, ne l'oublions pas. La rend discutable dans les faits. Veillons donc à avoir beaucoup de scrupules à cet égard. Mais ceci est une chose certaine, mais il ne suffit pas de cela. Est-ce que, et c'est une des faiblesses de Sardes, est-ce que véritablement nous pouvons être dans le danger, comme Sardes l'a été effectivement, de considérer la parole comme parfaitement juste, comme les vérités qu'elle présentait comme parfaitement authentiques et vraies, et pourtant ne pas aligner notre vie avec la parole? Est-ce que dans mon attitude, est-ce que dans les jugements que je fais, dans les choix que je fais, est-ce que dans les positions que je prends dans ma vie familiale, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie collective bien sûr, est-ce que dans tout cela, j'essaye d'étayer la façon dont j'agis et je fais, non seulement sur l'esprit qui peut m'éclairer dans la lecture de la parole, mais aussi sur la parole elle-même? Est-ce que je suis en mesure Et cela suppose que nous ayons étudié cette parole. Est-ce que je suis effectivement en mesure de justifier les choix que je fais sur la parole? Cela est de la plus grande importance. Et il faut commencer tôt. Il faut commencer tôt dans cette affaire. Le plus tôt possible. Mettre en ligne sa vie avec la parole de Dieu. Voilà ce qui compte. Sinon, nous pourrons conserver la parole de Dieu comme dans une bibliothèque. Nous pourrons la conserver parfaitement authentique. Si elle n'est pas vécue, qu'est-ce qu'elle est devenue pour nous? Si la parole n'est pas vécue, qu'est-ce qu'elle est pour nous? Elle n'est pas cette parole vivante, elle ne serait pas cette parole vivante et opérante. Grâce au Seigneur, le Seigneur peut se servir d'un moyen ou d'un autre pour nous rappeler la puissance de sa parole. Mais nous avons aussi, ne l'oublions pas, à être exercés à cet égard.
Quant à la récompense qui est donnée aux fidèles de Sardes, celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Au chapitre 6, au verset 11, il est question d'une compagnie de croyants qui sont vêtus de robes blanches. Il leur fut donné à chacun une longue robe blanche. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont été égorgés pour la parole de Dieu, pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Bien sûr, ceux de Sardes n'ont pas peut-être été égorgés comme ceux du chapitre 6 pour la parole de Dieu, mais bien sûr ceux de Sardes ne sont pas les mêmes que dans le chapitre 6, verset 11, mais qu'est-ce qui avait du prix pour leur cœur, pour le vivre? C'était la parole de Dieu. Chapitre 6, ils ont été égorgés pour la parole de Dieu, c'est ce qui sera la part des témoins après l'enlèvement des croyants, et ils auront une robe blanche. Leur amour pour le Seigneur, leur fidélité à la parole, qui fait qu'ils ont marché, qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements, eh bien, ils seront vêtus de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Il y a une image qu'on emploie parfois et qui ne me semble pas être tout à fait confirmée par la parole. On dit, voilà, on annonce l'évangile, et puis on dit, si tu crois, quand vous aurez cru au Seigneur Jésus, au moment où on dit un enfant, au moment où tu as cru au Seigneur, ton nom est écrit dans le livre de vie, dans le ciel. Et je ne crois pas qu'on puisse confirmer cela dans la parole. Le livre de vie, quand on regarde un peu plus loin dans l'Apocalypse, au chapitre 13, au verset 8, il y a d'autres passages. Tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Ceux qui ont rendu hommage à la bête. Il est dit d'eux que leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Plus loin, dans l'Apocalypse aussi, au chapitre 21, le dernier verset, au verset 27, quant à la Nouvelle Jérusalem, il n'entrera aucune chose souillée, ni ce qui fait une abomination et un mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, rentrant dans la présence de Dieu pour l'éternité, ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Là, on est bien d'accord. Dans le chapitre 20, quand il est question du grand trône blanc, il y a des livres qui sont ouverts, et au verset 12, « Je vis les morts, les grands et les petits, se tenant devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, qui est celui de la vie. » Et les morts furent jugés d'après les choses qui étaient écrites dans les livres selon leurs œuvres. Et plus loin, verset 15, si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu. Alors il y en a dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde, d'autres dont le nom n'est pas écrit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que le nom de tous les hommes est écrit dans le livre de vie? Non. Mais dans sa préconnaissance, Dieu sait quels sont ceux qui vont croire. Et quand Moïse, dans le livre de l'Exode, plaide pour le peuple d'Israël, Il dit au chapitre 32, verset 32, « Et maintenant, si tu pardonnes leurs péchés, sinon, efface-moi, je te prie, de ton livre que tu as écrit. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Celui qui aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Ce qui fait qu'on est effacé du livre de vie, de ce livre, c'est quand on a péché, quand on a refusé, en fait, le Seigneur. Et Moïse dit, « Efface-moi de ton livre. » Non, celui qui aura péché contre moi. Et dans le psaume 69, il y a encore un verset. Psaume 69, verset 28. « Qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. Ceux qui se sont ainsi opposés au Seigneur, qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. » Alors il y en a, Dieu dans sa préconnaissance, c'est ceux qui sont inscrits dans ce livre, dès avant la fondation du monde. Et puis, il y a aussi des gens, et c'était le cas dans Sardes, et c'est peut-être le cas de quelques-uns ici, qui ont la réputation de vivre, d'avoir la vie. Ils sont là peut-être inscrits dans des registres d'église, et ils sont connus comme chrétiens. Je suis sûr que pour chacun d'entre nous ici, si jamais on posait la question à n'importe lequel d'entre nous, « Est-ce que tu es chrétien ?» Il répondrait « Oui, je suis chrétien. » Peut-être même à un enfant ou peut-être un plus grand. « Est-ce que tu crois au Seigneur Jésus ?» Il sait ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il dira « Oui, je crois au Seigneur Jésus. » « Est-ce que c'est vrai dans ton cœur ? » Est-ce que c'est vraiment vrai cela ? Est-ce que vraiment tu es écrit dans le livre de vie ? Ou est-ce que tu as une profession chrétienne ? Et alors, ici, dans ceux qui sont fidèles, dans ceux qui ont vaincu, le Seigneur dit « Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Je confirmerai qu'il a vraiment la vie dans ce milieu qui était marqué par la mort. » Et dans un sens, quand nous donnons notre cœur au Seigneur, eh bien, nous confirmons le propos de Dieu à notre sujet. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et en donnant notre cœur au Seigneur, en acceptant le Seigneur, c'est comme si on paraphait, on acceptait ce fait d'être écrit dans le livre de vie. Mais être écrit dans le livre de vie, ce n'est pas une profession extérieure. C'est vraiment avoir la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 12, le Seigneur Jésus dit quelque chose à ses disciples, au verset 8. « Quiconque m'aura confessé devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Quiconque m'aura confessé devant les hommes, je confesserai son nom devant les anges de Dieu. » Ici, « Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Pourquoi ? Bien, le verset de Luc 12 nous le montre. Parce que dans leur vie, ils ont confessé vraiment le nom du Seigneur. Ils l'ont confessé dans leur manière de marcher. Ils l'ont confessé en ayant la vie et en n'ayant pas souillé leurs vêtements. Et le Seigneur confessera alors leur nom. Et en attendant, il leur dit aussi, « Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. » Il les invite dans sa compagnie. Il est heureux de marcher avec eux. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Quelle chose extraordinaire. Notre Seigneur qui parle de ses croyants avec satisfaction, parlant de leur dignité. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Est-ce qu'aujourd'hui notre Seigneur est-ce qu'il est digne aujourd'hui que nous désirions l'honorer? Est-ce qu'il est digne aujourd'hui que vraiment nous soyons de ceux qui ne souillent pas leurs vêtements? Est-ce qu'il est digne aujourd'hui de que vraiment aujourd'hui nous le confessions dans nos vies? Non seulement par nos lèvres, cela est important de confesser le Seigneur de sa bouche, mais que notre confession soit confirmée par notre marche.
Il y a donc manifestement à Sardes un manque d'énergie spirituelle qui s'explique toujours par le fait qu'on a négligé les ressources divines. Du côté de Dieu, rien ne manque. Nous l'avons déjà souligné et nous ne le ferons jamais assez. Les ressources sont parfaites. Dieu a tout mis en œuvre de son côté pour que nous ayons la victoire, nous soyons des vainqueurs. L'Épître aux Romains confirme cela, que nous soyons plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Cela évoque tout le butin que nous avons outre la victoire, toutes les retombées bénies que nous valent les victoires remportées sur trois ennemis. Il n'y en a pas plus de trois essentiels: Satan, la chair, le monde. Ce sont les ennemis permanents du chrétien. Et si nous tolérons des compromis avec ces ennemis, eh bien, nous manquons d'énergie spirituelle. Et alors, cela aura des conséquences, d'une part, sur notre marche, sur notre conduite et sur nos œuvres. « Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites, » dit-il, devant mon Dieu, devant celui qui a apprécié la marche parfaite de son Fils bien-aimé, les œuvres, il faisait les œuvres que le Père lui avait confiées dans une dépendance et une confiance incomparable, parfaite. Le Seigneur reste le modèle de la marche que Dieu approuve. Il y a donc à ça des principes mélangés. Sans doute, il y a quelques noms que le Seigneur met à part et dont il est heureux de parler les vainqueurs. Comme l'avons dit dans chaque assemblée, le Seigneur suppose qu'il y a des vainqueurs. Et ceci est très important parce que ce sont eux qui permettent au Seigneur de maintenir la lampe allumée. Dès l'instant où il n'y a plus que des vaincus, le Seigneur est obligé, par souci pour sa gloire, d'enlever la lampe de son lieu, ce qu'il annonce déjà à Éphèse, ce qui est arrivé à Éphèse, et assemblée qui avait été élevée jusqu'aux cieux, quant à la révélation de la position qui était la sienne en Christ. Il nous faut lire cette épître aux Éphésiens pour voir tout le conseil de Dieu déployé par l'apôtre qui était le brillant héros de cette vérité qui lui avait été confiée par le Christ glorifié. Et c'est cela qui fait partie de notre héritage et à quoi nous devons tenir. Donc les reproches que le Seigneur fait à Sardes sont pleinement instructifs pour nous, aussi bien dans notre vie collective que dans notre vie personnelle. Et le premier point qui est relevé par rapport au vainqueur de Sardes, nous devons y insister aussi, c'est la sainteté dans la marche. Et en tout temps, il y a eu des hommes, des femmes qui ont été caractérisés par cette séparation du mal. À Sardes, où on a pris l'épée, où on a usé de violence, il y a là des âmes que le Seigneur distingue et qui l'ont honoré dans leur marche. Et la récompense sera à la mesure de ce qu'ils ont été sur la terre. Nous pouvons penser à un Joseph, par exemple, devant la tentation qui se présente là. Tout à coup, Satan agit toujours ainsi. Il agit brutalement. La tentation est là et cet homme qui jouissait de la communion avec l'Éternel a été préparé pour cette tentation et il a été vainqueur. De même, le Seigneur qui reste le modèle parfait lors des tentations sur la montagne, nous savons comment il a résisté. Il est pour nous un modèle dans cette résistance victorieuse. Par la parole, il est écrit, il est écrit. D'où l'extrême importance de garder ce que le Seigneur nous a révélé par sa parole. Et c'est ce qui est à la base de tout progrès dans la vie du chrétien. Pourquoi Sardes s'est contentée, toute précieuse que soit cette vérité du salut par grâce, c'est parce qu'elle n'a pas
obéi, qu'elle n'a pas retenu ce qui lui avait été donné au commencement. Quand l'Esprit de Dieu a soufflé d'une puissance qui n'avait pas été égalée jusque-là depuis la disparition des apôtres de la scène au premier siècle. Il y a eu quelque chose là de tout à fait remarquable. Nous invitons notre jeunesse à travailler ces questions-là. Elles sont essentielles. Eh bien, il y a eu en tout temps des hommes, des femmes qui ont été caractérisés par cette sainteté pratique. Des vêtements blancs, refuser les offres séduisantes du monde, ces tentations qui aujourd'hui se multiplient. Voyons comment le mariage, cette institution divine, est méprisée aujourd'hui. Un jeune chrétien qui se conserve pur pour le Seigneur, dans son esprit, dans son âme et dans son corps, eh bien, c'est là une victoire que le Seigneur reconnaît. Il faut toute l'énergie du Saint-Esprit pour résister à ce courant très puissant et ne pas faire comme les autres et passer même pour un anormal. Eh bien, le Seigneur bénit une telle décision, mais il faut qu'elle soit arrêtée dans le cœur. Et pour les œuvres, il en va de même. Si nous avons des principes mélangés dans nos cœurs, cela va se traduire dans notre activité. Et aujourd'hui, ce qui nous fait souffrir dans certaines activités parmi nous, c'est qu'il y a des principes mélangés. L'homme naturel a une certaine importance, déjà quant aux moyens que l'on choisit. Ce qui compte, c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est elle qui produit la conviction de péché. Et les œuvres du chrétien sont de toute importance. Ce à quoi nous sommes appelés, nous avons les ressources pour cela, c'est accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Il prépare le croyant pour accomplir les bonnes œuvres et c'est toute notre vie de piété secrète avec Dieu. Et en même temps, nous n'avons pas à choisir, nous n'avons pas à décider. Dieu place sur notre chemin les occasions dans lesquelles, eh bien, nous pouvons accomplir ce qui lui est agréable. Et là, nous pouvons quelquefois nous méprendre quant à ce que le Seigneur nous a confié, quant aux bonnes œuvres que nous pouvons accomplir. Il est dit de Marie qu'elle a accompli une bonne œuvre envers moi, dit le Seigneur. Toute bonne œuvre est envers le Seigneur. C'est lui qui est l'objet devant le cœur. Et cette femme sans parole, eh bien, est la seule honorée devant tous les disciples qui étaient pratiquement d'accord avec Judas par le Seigneur lui-même. Ce n'est pas toujours ce qui est spectaculaire aux yeux des hommes qui est d'un grand prix devant Dieu, et en général pas. C'est ce qui est accompli dans la fidélité à la parole de Dieu et sous la puissance du Saint-Esprit. Puisque vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Cette marche par l'Esprit, est-ce qu'elle nous exerce ou bien allons-nous par une certaine vitesse acquise, nous laissant entraîner passivement, peut-être même dans notre vie collective, comme cela a été souligné antérieurement. Nous avons besoin d'un exercice personnel. Et alors, ce que nous voulions ajouter, c'est que, pour faire des progrès dans la vie chrétienne, il est très important que, lorsque le Seigneur me révèle quelque chose par sa parole et son esprit, que cela touche mon cœur, le pénètre profondément et que je m'engage par rapport à cette vérité. Et alors le Seigneur nous révèle encore autre chose, d'autres grâces pour nous faire progresser dans la vie de la foi. Sardes a été, pour ainsi dire, arrêtée dans son essor spirituel, par manque d'énergie spirituelle, parce qu'elle n'a pas consulté l'Écriture, notamment pour la vie collective du peuple de Dieu. Et il faut attendre Philadelphie pour découvrir ce que le Seigneur, dans un puissant réveil, pas de la même envergure que Sardes, sans aucun doute, mais combien réel néanmoins, ce réveil qui a été confié comme révélation à Jean tout seul, pas à l'apôtre Paul. Ce réveil, produit au début du siècle dernier, est digne aussi de toute notre attention si nous aimons le témoignage du Seigneur. Il y a eu quelque chose là qui s'est passé et qui a été simplement produit par le Saint-Esprit. Les réveils ont toujours à l'origine une activité puissante du Saint-Esprit et en fait du côté de l'homme. Des cœurs brisés qui s'humilient devant Dieu en constatant la ruine qui est autour d'eux. Les deux choses sont vraies. N'oublions pas que pour jouir de Matthieu 18, 20, il nous faut lire 2 Timothée 2, 19 à 22. D'abord, nous séparer pour Dieu. Et ce principe de la séparation, nous le trouvons dans ces quelques noms qui sont à Sardes. On pourrait dire qu'il y a en germe à Sardes, dans les vainqueurs de Sardes, Philadelphie. C'est de toute beauté.
Nous arrivons donc à Philadelphie, comme on vient de l'entendre, ce puissant réveil qui a eu lieu dans nos pays, dans la chrétienté, dans les années 1820, 30, 40, même encore un peu avant, et qui a été opéré par l'Esprit de Dieu. Et cela, c'est d'une grande importance, considérant ce temps. Les quelques enseignements historiques que l'on peut glaner ici et là, et on encourage à rechercher, soit dans d'anciens messagers, soit dans des lettres, comment ce réveil s'est produit. Il s'est produit d'une manière indépendante dans différentes régions et de la même manière, ce qui confirme que ce n'est pas l'influence d'un homme à qui on peut attribuer, comme dans la plupart des religions, de ce qui a lieu dans la chrétienté, ou un prédicateur qui doué d'une forte personnalité, d'une grande connaissance de l'Écriture, par exemple, s'entourerait de disciples qui ensuite essaiment, vont ici et là et produisent cette nouvelle activité chrétienne. Mais non, c'est vraiment, on peut le confirmer en voyant comment les choses se sont faites de la même manière en divers lieux, ce qui confirme bien que c'est bien le Saint-Esprit qui a agi. Et il a agi, alors nous avons là les différents caractères que nous trouvons dans ces versets. D'abord, c'est Philadelphie, qui signifie « amour des frères ». Il y a donc là un amour d'origine divine qui a uni ses croyants. Et un peu plus loin, nous voyons qu'il y a aussi l'amour pour le Seigneur. C'est en fait l'origine même de cela. Parce que quand il est dit « tu as gardé ma parole », nous comprenons bien que c'est synonyme d'aimer le Seigneur. Nous pouvons le confirmer par un verset de Jean 14, quand il est dit, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Donc garder la parole du Seigneur, c'est bien l'aimer. Et on aime le Seigneur, on aime aussi les frères. Et donc un puissant témoignage de l'Esprit de Dieu qui a produit cet amour pour le Seigneur, les uns pour les autres, et l'attachement à la parole de Dieu, tout entière. Nous verrons encore d'autres caractères. Nous voulons d'abord dire comment le Seigneur se présente ici. Chaque fois, il se présente d'une manière qui est en relation avec l'Église considérée. Ici, il est le Saint et le Véritable. Nous trouvons ces deux noms du Seigneur dans la première épître de Jean, au chapitre 2. Et au verset 20, il est dit « Vous avez l'onction de la part du Saint ». Il est le Saint, celui qui est séparé de tout mal. En présence, en face de la souillure, il est le Saint. Et puis, il est aussi le Véritable. Et également, dans la première épître de Jean, au chapitre 5, n'est-ce pas, « Nous connaissons le Véritable », verset 20e du chapitre 5. Le véritable, le saint et le véritable. Le saint en face de la souillure et le véritable en face du mensonge. Et nous savons bien tous les mensonges dilués dans la chrétienté par l'effort de l'ennemi pour apporter tout ce qui vient de lui, qui est le menteur, et déformer et détourner les croyants de la vérité, le saint, le véritable. Donc s'il y a l'amour, il y a aussi la vérité, les deux caractères inséparables, et sans lesquels il ne pourrait pas y avoir de témoignage fidèle. Il est aussi celui qui a la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul n'ouvrira. C'est une allusion à Ésaïe 22, dans le passage dans lequel nous voyons un homme qui est là comme déjà préfigurant le Seigneur Jésus. Et c'est beau de voir ce titre donné dans des temps troublés. Nous a dit Ésaïe 22, verset 22, et il ouvrira et personne ne fermera, et il fermera et personne n'ouvrira. On voit toujours combien, et spécialement dans l'Apocalypse, il y a un report, des allusions à ce qui est déjà annoncé dans l'Ancien Testament. C'est donc un titre qui est donné ici au Seigneur, et on le comprend par la suite, puisqu'il est dit: j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, n'est-ce pas? Il a cette clé qui lui permet d'ouvrir et de fermer. Alors nous avons cette assemblée de Philadelphie qui évoque ces temps précieux du réveil, où la parole a été mise en lumière et où il y a eu un attachement pas seulement à l'œuvre accomplie, mais à la personne. C'est ce qui fait le contraste avec les temps de la Réformation, où l'accent a été mis sur l'œuvre, sur le salut par la foi, mais au temps du réveil, l'accent a été mis sur l'attachement au Seigneur lui-même. Sa personne est devenue particulièrement chère aux croyants. Et alors, toutes les vérités relatives à Christ et à son Église, à la marche chrétienne, à la séparation du monde, la vocation céleste de l'Église, tout cet ensemble de vérités a été remis en lumière. En même temps, d'ailleurs, que la prophétie, qui a fait l'objet de beaucoup de recherches et de lumières données dans ce temps-là. Tout ce que nous devons à ces devanciers, n'est-ce pas, est inestimable. C'est Dieu qui a donné cela par son esprit, par le moyen de conducteurs. Nous ne nous attachons pas aux conducteurs eux-mêmes, quoique nous ayons en eux aussi l'exemple, comme nous le disions tout à l'heure, qui a confirmé ce qu'ils ont donné, de leur plume ou de leur bouche. Mais nous nous attachons à la parole de Dieu qui a été ouverte, éclairée par le moyen de ses frères qui nous ont instruits et enseignés dans ces temps précieux du réveil et qui ont mis en pratique ce qu'il disait. Alors cette assemblée de Philadelphie, elle est particulièrement précieuse pour nous qui sommes les héritiers bien responsables de ces temps du réveil.
Nous avons dans le cantique que nous avons chanté en quelque sorte commencé déjà le sujet. En effet, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25e, il est question des vierges sages et des vierges folles, et il est question de ce réveil au milieu de la nuit de cette chrétienté apparemment endormie, et où certaines avaient, n'est-ce pas, nous faisons allusion au premier paragraphe de Matthieu 25, où certaines avaient de l'huile dans leur lampe, c'est-à-dire avaient la vie divine et d'autres ne l'avaient pas. Eh bien, la parole est claire à ce sujet. Les faits historiques n'ont fait que confirmer. Nous disposons de récits auxquels nos frères ont fait allusion, qu'il est important de lire sur l'histoire de l'Église, en langue française, même en langue anglaise aussi, des compléments dont nous ne disposons pas en langue française, ainsi que d'autres récits probablement dont nous n'avons pas tous connaissance. En tout état de cause, les faits ont confirmé, mais ce qui est important pour nous, c'est que la parole l'avait annoncé dans cette allégorie des vierges sages et des vierges folles qui ont été réveillées par un cri au milieu de la nuit, le cri de minuit, dit-on, expression souvent utilisée, cri au milieu de la nuit, qui a donc réveillé ce témoignage. Cri qui a mis en lumière l'autorité de la parole et aussi la vérité du retour du Seigneur, parce que c'est bien une vérité essentielle qui a été mise en lumière à ce moment-là, d'une manière générale dans toute la chrétienté. Ne rétrécissons pas la portée de ce passage à un témoignage que l'on connaîtrait. Cela est bien sûr beaucoup plus général, hein, de toute façon. Il ne faut surtout pas rétrécir les passages que nous lisons à des exemples que nous connaissons. Cela est de portée beaucoup plus générale encore. Bon, alors donc ça c'est un caractère. L'autorité et la personne du Seigneur sont reconnues. L'autorité de la personne du Seigneur et l'autorité de cette personne est reconnue et vécue dans l'Assemblée. Les relations avec elle sont des choses considérées comme irremplaçables, incontournables. Et on voit dans ce paragraphe concernant l'église de Philadelphie, on voit le nombre de possessifs qui donnent cette dimension de relation. N'est-ce pas? Nous pouvons en égrener quelques-uns, chacun pourra les trouver. Tu n'as pas renié mon nom. Un peu plus loin, tu as gardé la parole de ma patience, etc. On en a plusieurs, on peut les relever, c'est extrêmement instructif. Donc des relations considérées comme irremplaçables avec le Seigneur. Et le troisième caractère, c'est donc, outre le réveil, le fait que de la conscience à la fois de la ruine de la chrétienté, de la ruine de l'ensemble du système qui porte le nom de Christ, la ruine générale, dont on considère bien qu'on est soi-même co-responsable, et deuxièmement, de l'absence de force, de la faiblesse. Et ceci est un caractère extrêmement important, et donc, on peut remarquer dans l'histoire des premiers croyants qui sont sortis à l'appel du Seigneur, ce souci qu'ils ont eu de ne compter que sur le Seigneur pour agir. Ceci est de la plus haute importance et on le perd souvent de vue. On le perd souvent de vue, notamment, on y a fait allusion, par l'emploi des moyens. Ce n'est pas que l'emploi des moyens soit en soi critiquable, bien sûr, mais ce qui est critiquable, c'est d'oublier l'essentiel, à savoir le Seigneur et son esprit. Si on oublie cela, tout le reste est réduit à néant. Le troisième caractère, c'est aussi le vécu de la dimension collective. Le sentiment que les croyants ont une responsabilité individuelle, une vie individuelle à avoir, c'est particulièrement présent, mais c'était déjà présent dans un certain sens, et avec des faiblesses dans le témoignage de Sardes. Alors par contre, le sentiment qu'il y a une vie collective, qu'il y a une vie collective pour laquelle qui doit être vécue sous le regard du Seigneur, en obéissant et en étant dépendant de l'action de l'Esprit, est une vérité qui a été particulièrement remise en lumière justement par ce réveil de Philadelphie. Et cela est de la plus haute importance. Nous en avons déjà dit quelques mots sur l'importance de reconnaître et de maintenir, dans la mesure où notre responsabilité est engagée dans cette affaire, cette vérité.
Quant à ce qui caractérise Philadelphie, il y a peut-être une chose particulièrement précieuse. Dans les caractères qu'elle montre, que montrent ses croyants, ces caractères montrent une ressemblance avec le Seigneur Jésus. Ils connaissent le Seigneur comme le Saint, le véritable, celui qui est vraiment le Saint, celui qui est la vérité, qui est vrai. Ils le connaissent aussi comme celui qui ouvre, qui a l'autorité pour ouvrir une porte et pour la fermer. Et dans la manière dont le Seigneur parle d'eux, on pense un peu à la vie du Seigneur sur la terre. Il dit « Tu as peu de force ». Le Seigneur Jésus a été crucifié en infirmité. Quand nous le voyons sur la terre, méprisé par les hommes, quand nous le voyons allant de lieu en lieu, un homme parmi les hommes, et aussi qui dans ce chemin-là va jour après jour, pas après pas, dans la dépendance de son Père, quand les hommes veulent mettre la main sur lui et que ce n'est pas l'heure, il passe au milieu et il s'en va. Quand alors ça sera le moment, quand ça sera l'heure décidée par le Père, alors il dira « C'est ici votre heure et le pouvoir du ténèbre » et ils mettront la main sur lui. Et dans tous les moments de sa vie, sa joie, sa nourriture, ça a été de faire la volonté de son Père. Et dans tous les moments où les hommes sont venus, l'ont posé des questions, l'ont attaqué de toute manière, si on ose s'exprimer ainsi, jamais il n'a renié le nom de son Père. Toujours, il a été ce témoin fidèle et véritable dont il sera question pour la Odyssée. Mais dans les caractères moraux du Philadelphien, nous trouvons une ressemblance avec les caractères moraux dans son humanité, dans sa perfection du Seigneur Jésus. Bien sûr, ce n'est pas du tout au même niveau, mais on voit bien que ce qui caractérise ainsi Philadelphie, ce réveil moral où la personne du Seigneur a une grande valeur, cela se traduit par une vie où on peut reconnaître ces chrétiens comme ceux qui ont été avec Jésus.
Dans les caractères que nous avons ici concernant le Seigneur, nous ne trouvons pas les caractères officiels qui étaient ceux au début des autres églises et qui correspondent à ce que nous avons de lui, cette vision du Fils de l'homme qui est aussi l'ancien des jours du chapitre 1er. Cette vision du juge. Ici, c'est précieux, c'est, on peut dire, dans le saint et le véritable, c'est sa gloire morale essentielle. Ce sont des attributs divins, saints et véritables. On pourrait trouver des passages de l'Ancien Testament à ce sujet. C'est donc la beauté de ce que Christ est en lui-même. Et d'autre part, si ce sont des attributs divins, cette sainte séparation du mal, le fait que Dieu est absolument séparé du mal dans sa nature, c'est aussi pour le Seigneur, on peut dire, des caractères qui concernent son humanité. Si nous lisons dans l'évangile de Luc, nous connaissons ce passage au chapitre 1er de l'évangile de Luc. Lisons rapidement, et au verset 35, et l'ange répondant dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Et cela a caractérisé bien sûr aussi sa marche de séparation dans ce monde, une marche sainte. Alors on peut aussi en tirer une application pour nous. Si nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, il nous est dit, au verset 20 du chapitre 4 des Éphésiens, « Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu et avez été instruits en lui, selon que la vérité est en Jésus. » La vérité est en Jésus. La vérité, c'est l'expression juste, parfaite, de ce qu'est une chose ou une personne. Et ici, il est question du nouvel homme. Du nouvel homme. En ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme, et verset 24, et d'avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. Et nous retrouvons ces deux termes comme dans Philadelphie. Donc, ici, en justice et sainteté de la vérité, cela signifie en relation avec la vérité. La vérité qui est ici comme personnifiée. La vérité est en Jésus. Alors donc, nous pouvons bien nous demander comment l'Assemblée, comment nous-mêmes nous répondons à l'attente de celui qui est le Saint et le Véritable. Et ce passage d'Éphésiens 4 est très important. Si le Seigneur a été l'expression parfaite, ici-bas, de la vérité, eh bien, il y a une instruction pour nous. Et nous savons bien que
quand il est question du nouvel homme dans ces épîtres de Paul, c'est le Seigneur Jésus présenté dans les croyants. Ce n'est pas le Seigneur Jésus en personne, mais c'est Jésus démontré dans ses caractères moraux dans les croyants. Alors, bien sûr, cela nous fait réfléchir chacun.
Mis devant toi une porte ouverte. Nous voyons dans l'évangile de Jean que c'est le Seigneur lui-même qui a ouvert cette porte. Il est la porte. Dans Jean 10, au verset 7e, « en vérité, je vous dis que moi, je suis la porte des brebis. » Verset 9, « moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera de la pâture. » En suivant le Seigneur, nous avons donc ce précieux privilège d'entrer et sortir. « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Et aujourd'hui, dans ce monde, l'Évangile est annoncé d'une manière remarquable dans bien des pays qui étaient fermés autrefois. Nous voyons que c'est le Seigneur qui a ouvert la porte de telles contrées pour la propagation de l'Évangile. Et quelle joie pour son cœur, comme pour la nôtre, de pouvoir voir ainsi des cœurs s'ouvrir à la parole de Dieu et suivre le Seigneur. Lorsque nous ouvrons le livre des Actes des Apôtres à la suite du Seigneur, ses disciples sont allés. Nous voyons en acte 8 que l'ennemi avait fait une œuvre trompeuse en essayant de disperser les croyants hors de Jérusalem. Et nous voyons qu'en acte 8, au verset 4e, « ceux donc qui avaient été dispersés allaient çà et là, annonçant la parole, annonçant la parole. » Ils avaient été dispersés, ils annonçaient la parole. Et nous voyons avec quelle puissance le Saint-Esprit agissait au début de ce livre des Actes des Apôtres pour donner la puissance à ceux qui annonçaient la parole. Ils étaient amenés devant le Sanhédrin parce qu'ils annonçaient la parole de Dieu ouvertement. On leur enjoignait ouvertement de ne plus annoncer le nom de Jésus. Et nous voyons que nous les retrouvons dans la ville le même jour annonçant la parole de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul lui-même est envoyé, nous lisons en acte 16... que la puissance du Saint-Esprit était avec eux. Mais parfois, nous voyons que l'Esprit, qui est de fait la direction intérieure pour le service, seul, avait empêché l'apôtre, en acte 16 au verset 6, d'aller en Asie. Et ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie et ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Il y a donc non seulement la volonté, il y a le désir de faire une bonne œuvre, nous voyons que c'est dans le cœur, mais nous voyons qu'il y a le moment pour agir. Et ici, même pour l'apôtre Paul, eh bien nous voyons que le moment n'était pas venu pour lui d'aller en Asie. Si nous tournons la page, en acte 19, nous allons le voir en Asie, annoncer la parole de Dieu. Nous allons le voir à Corinthe, en acte 18, le Seigneur lui dire, dans le verset 9e, acte 18, verset 9, « Or le Seigneur dit de nuit, dans une vision à Paul, ne crains point, mais parle, et ne te tais point, parce que je suis avec toi. » Voyons avec quelle puissance la parole de Dieu est là, encore aujourd'hui, comme au temps des apôtres. Ne croyons pas que son énergie a diminué en quoi que ce soit. Il est là pour soutenir tous les serviteurs de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu. La porte est ouverte.
Il est précieux et encourageant de penser que c'est le Seigneur qui tient la porte ouverte. L'apôtre le savait très bien lorsqu'il avait dû rester à Éphèse et qu'il s'adresse aux Corinthiens. Il leur dit au chapitre 16e, « Une porte grande et efficace m'est ouverte et il y a beaucoup d'adversaires. » Les deux vont en général ensemble. Dès que le Seigneur ouvre une porte, et que la bénédiction, parce que c'est une porte ouverte pour, sans doute, réprimer le mal, lorsqu'il agit, mais aussi pour apporter la bénédiction. L'Évangile, sans doute, mais aussi toutes les vérités qui nous ont été confiées et que nous détenons par grâce, des âmes qui sont en recherche et avec lesquelles le Seigneur nous met en contact. Bien sûr, le premier point dont nous devons nous assurer, c'est qu'elles jouissent de la certitude du salut. Mais ensuite, nous pouvons, dans la mesure où leur foi fait des progrès, les instruire quant aux vérités qui nous ont été confiées. C'est quelque chose de très précieux lorsque le Seigneur nous accorde une telle grâce. Et il n'y a rien de plus beau à voir qu'une âme qui a soif de la vérité. Ce devrait être notre cas à tous. Il y a des vérités que nous devons toujours remettre en mémoire, revoir. Il y a d'abord aussi la jeune génération qui monte. Et très souvent, il y a un affaiblissement qui est lié au fait que la vérité n'a pas été présentée dans son ensemble. Et les âmes sont quelquefois affaiblies parce qu'il n'y a pas de nourriture solide qui leur est proposée, et elles se contentent de lait, et ainsi sont perméables à toutes sortes d'influences nocives. Mais une âme qui est assurée dans le Seigneur, qui jouit du Seigneur, pour qui le Seigneur est véritablement le trésor de son âme, eh bien, elle fera des progrès, elle avancera, elle saisira les vérités. On n'a pas besoin de lui dire quelle devra être sa conduite. On observe cela chez des âmes très engagées, quoique jeunes dans la foi, eh bien, elles voient tout de suite, par rapport au Seigneur, ce qui lui est agréable et ce qui le déshonore. C'est elles-mêmes qui font le tri. Et ceci est un point très encourageant. Donc, la porte ouverte. Nous n'avons même pas la force pour ouvrir une porte. Cela donne la mesure de notre faiblesse. Mais alors, le Seigneur, lui, il est puissant pour l'ouvrir face à tous les adversaires du monde entier. Et combien cela aussi nous rassure, nous apaise, parce que nous pourrions être effrayés devant toute la puissance qu'aujourd'hui l'ennemi déploie. Le Seigneur pouvait dire à Marthe, « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Eh bien, nous pouvons appliquer ce verset aujourd'hui dans nos vies d'assemblée. Croyons au Seigneur, à sa parole, à la vérité, et lui agira. À nous l'obéissance, à Dieu les conséquences, disaient nos frères. Et nous pouvons vérifier ce que l'expression pour être vainqueur. Alors nous voyons que le Seigneur qui se présente comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, la clé c'est toujours un instrument lié au gouvernement de Dieu avec l'épée, mais la clé c'est pour ouvrir, comme nous l'avons dit, pour la bénédiction, mais aussi pour réprimer le mal, alors que l'épée c'est pour exercer le jugement, et cela appartient au Seigneur. Et à l'épée de sa bouche, nous l'avons vu ailleurs. Et il se plaît à mettre en relation ce que réalise cette assemblée avec les caractères moraux que lui-même présente. Le Saint, mon nom, tu n'as pas renié mon nom. Voilà, le nom du Saint, de celui qui est séparé de tout mal. Dans le monde où nous sommes, ne pas renier le nom du Seigneur, eh bien cela représente une énergie de foi que lui seul peut nous communiquer. Ce monde qui est dans la corruption et la violence, garder dans nos cœurs la présence du Seigneur, jouir de lui, lui y occupant toute la place. Dans les conseils de Dieu, il tient la première place. La tient-il dans nos cœurs? Eh bien, si oui, tout ira bien pour nous, par la grâce de Dieu. L'autre point, le véritable. Le véritable, tu as gardé ma parole. Ta parole, dit le Seigneur dans sa prière sacerdotale, est la vérité. Ta parole est la vérité. Il y a deux moyens pour la sanctification du croyant. La parole, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité, et je me sanctifie moi-même pour eux. C'est-à-dire, je suis élevé dans la gloire, séparé du péché et des pécheurs, et je suis là, dans cette place, en dehors du péché et du mal, pour intercéder pour les miens, mes rachetés qui sont encore sur la terre. Eh bien, tu as gardé ma parole. Soulignons les tu as que le Seigneur se plaît à relever dans ce qui représente les qualités morales d'une assemblée en bon état. Tu as peu de force, tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom, tu as gardé la parole de ma patience. Ces expressions méritent d'être inscrites par le Saint-Esprit en chacun de nos cœurs. Alors, le premier point introductif, tu as peu de force. Tu as peu de force. Il n'y a pas eu de prétention ecclésiastique à Philadelphie. Ils se sont réunis tout simplement au nom du Seigneur. en se basant sur la parole de Dieu, étant assemblé par la puissance du Saint-Esprit, là où deux ou trois, le plus petit nombre qui puisse exister pour une congrégation de saints, deux ou trois, c'est la faiblesse même aux yeux des hommes, mais ce qui fait la valeur d'un tel rassemblement, au nom du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, en se basant uniquement sur l'autorité de la parole, c'est que le Seigneur est au milieu de ces deux ou trois. Il est là. Et comme le chantons quelquefois, peut-être trop facilement, en nous habituant aux paroles sans qu'elles aient un effet profond dans nos cœurs, ta présence est le bien suprême. Ton amour ne tarit jamais. Ton cœur dispense à ceux qui l'aiment repos, bonheur, parfaite paix. Nous les voyons, ces disciples, dans la chambre haute, lorsque le Seigneur se présente à eux, avec ses paroles « Paix vous soit ». Il leur montre les marques de ses souffrances à la croix, dans ses mains, dans ses pieds, dans son côté, la trace de la lance du soldat romain. Et alors, quel est le résultat produit? Ils se réjouissent. Ils sont heureux, ils ont le Seigneur au milieu d'eux. En un sens, nous avons déjà, sur la terre, ce que nous goûterons parfaitement dans le ciel. Dès l'instant où nous nous basons sur ce que Dieu nous dit, ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole, eh bien, nous avons les réalités vivantes qu'a goûté Philadelphie, avec une puissance sans doute que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Mais l'esprit philadelphien, comme on l'a dit, est à cultiver encore aujourd'hui. Ne laissons pas, ne vendons pas cette vérité. Achète la vérité et ne la vends pas. Les pères qui nous ont précédés ont acheté cette vérité à très grand prix. On s'est moqué d'eux, on les a méprisés. On a dit d'eux, vous êtes des zéros. Et alors l'un d'eux a répondu, eh bien, il n'y a qu'à mettre un 1 devant tous ces zéros. Et cela fait un grand nombre. Et il voulait parler de la puissance du Saint-Esprit, un homme tout simple, qui avait dit « D'accord, nous sommes des zéros ». C'est ce que nous devons reconnaître, nous ne sommes rien. Et le fait d'éprouver notre propre faiblesse, la bonne faiblesse, non pas la faiblesse coupable, celle-là, nous devons la juger, la condamner, mais la bonne faiblesse, quel est le résultat? C'est qu'elle nous rejette sur Dieu. Et l'apôtre nous en donne un exemple vivant dans 2 Corinthiens 12, cette écharde dispensée par un ange de Satan lui faisait très mal. Elle a été, si nous remarquons, dispensée au début de son ministère et tout au long de son ministère, elle ne lui a pas été retirée. Pourquoi cela? Pour sentir sa faiblesse. Et en même temps, la réponse du Seigneur, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Et alors aussitôt, saisissant la beauté d'une telle parole, le serviteur de Dieu se glorifie dans ses infirmités. C'est de toute beauté. Et si nous sommes spirituels, nous ne tarderons pas à découvrir nos échardes à chacun. Elles nous tiennent petits à nos propres yeux, gardés de toute prétention, gardés dans l'humilité, et donnant de la valeur aux vérités morales. Ce sont les choses essentielles, les vérités morales. Ce n'est pas tant la connaissance, aussi précieuse qu'elle soit, mais ce sont les gloires morales de Christ qui impressionnent le cœur de Philadelphie. Que la grâce nous soit faite de cultiver l'esprit philadelphien.
Mmh.